Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien sûr. Avec dans notre émission du jour, ces géants d'Espagne au tapis, deux défaites pour le Real et le Barça, de simples faux pas ou pas. Nous en parlerons, alors qu'en Italie, le géant Ibra bombe le torse, premier de la Serie A avec le Milan AC, vainqueur du 111e derby milanais. Pas de vainqueur dans le derby de la Mersey. Everton et Liverpool se sont quittés, match nul, et les Toffees restent en tête, mais résisteront-ils longtemps aux Reds ? En Ligue 1, Lille aux commandes devant le PSG. L'OM a gagné au Vélodrome, de bon augure peut-être avant la Ligue des Champions. Enfin, des Égyptiens en forme en Afrique. Al Ahly et Zamalek ont remporté les matchs aller face au Wydad et au Raja en demi-finale de la Ligue des Champions. Peut-être donc vers une finale 100% égyptienne. Aujourd'hui, dans cette émission, on parle de l'OM. Nous avons Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
En plus, c'est un jour particulier. Vous aimez bien fêter vos anniversaires dans Radio Foot.
J'adore le faire avec vous.
Avec les auditeurs.
C'est vrai que je prends à chaque fois un an, mais écoutez, pour l'instant, ça va. Je me suis levé ce matin.
Ça nous arrive tous. Bon anniversaire en tout cas.
Merci beaucoup,
de la part de toute l'équipe de Radio Foot et j'imagine de nombreux auditeurs aussi. Franck Simon, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre ami de France Football, sur qui je compte pour parler notamment des Égyptiens. Et puis Chérif Guémour est là aussi. Bonjour Chérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
À noter et à retenir que, suite à l'attentat islamiste de vendredi soir en France, l'Assemblée Générale de la Ligue de Football a décidé de rendre hommage au professeur d'histoire et géographie Samuel Paty le week-end prochain sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. Une minute de silence sera respectée et le portrait du professeur assassiné sera diffusé. Radio Foot, c'est parti.
Pied, réussir est un fait. Prend donc l'avantage face au Barça avec ce penalty transformé. C'est donc terminé, la première défaite cette saison de Barcelone en Liga sur le terrain donc de Retafe, 1-0, un but de Mata.
La passe de Negredo vers Lozano et c'est l'ouverture du score mérité. Negredo, Lozano, le duo d'attaquants qui brille et qui après une domination logique de Cadix permettent aux hommes d'Alvaro Cervera de mener 1-0. Cadix réussit un exploit énorme dans son histoire, vient s'imposer face au Real Madrid. Quelle histoire pour ce promu.
Et oui, la joie des joueurs de Cadix qui sont rentrés en Andalousie, vous les écoutez, le cœur léger avec pour bagage leur victoire historique face au Real Madrid. La première dans l'histoire de ce club qui jouait encore en troisième division il y a à peine 2 ans. À parcourir le classement de la Liga ce matin, on est d'ailleurs surpris car aux deux premières places se trouvent la Real Sociedad et Villarreal. Beaucoup de Real, mais pas le grand Real Madrid, seulement troisième, à égalité d'ailleurs avec Cadix et Getafe. Getafe, le club qui lui a battu le FC Barcelone. FC Barcelone à la 9e place. Les Merengues, comme les Blaugrana, ont enregistré leur première défaite de la saison, le Real à domicile. Ces défaites à la 6e journée sont-elles des faux pas des deux géants d'Espagne ou est-ce plus grave à Bibey pour ces deux équipes? Et je préciserai qu'en plus, c'est des équipes qui ont des matchs en retard, hein, le Real comme le Barça.
Mais en tout cas, c'est
leur première défaite de la saison.
Ça arrive déjà très vite. On se rend compte aujourd'hui que la préparation pour tous ces clubs a été difficile, mais pour tous les clubs, mais surtout pour les grands clubs. On se rend compte que ce break international a fait beaucoup de mal aux grandes équipes. Parce que le Real et le Barça ont beaucoup d'internationaux et on a pu voir que pour certains il y avait 2 matchs, pour d'autres il y en avait 3, et que forcément à Cadix il y a peut-être moins d'internationaux. J'ai pas compté des deux côtés, mais il y en a sûrement moins du côté de Cadix que du côté du Real Madrid. Et puis il y a aussi une récurrence en Espagne, c'est que les petits vont jouer face aux gros. Ils jouent, ils sont pas dans cette idée absolument de préserver quoi que ce soit. Ils ont des ambitions, quitte à en prendre 4 ou 5, et ça arrive parfois. Mais il y a aussi une problématique qu'on peut voir chez les deux équipes, parce que quand on regarde les statistiques, Barcelone et le Real Madrid ont affiché plus de 70% de possession de balles. Et pour une équipe, c'est un tir cadré. Pour une autre équipe, c'est deux tirs cadrés seulement. Lorsqu'on voit la qualité de ces équipes-là, c'est insuffisant. Donc ça veut dire que sur ce match-là, ils n'ont pas été bons. Est-ce que c'est lié à ce break international et où les joueurs sont très fatigués en ce moment? Tout le monde l'a dit. De Bruyne l'a dit dernièrement. Il a dit que c'était un rythme de folie. D'ailleurs, il s'est blessé. Donc il faut être aussi indulgent avec ces grandes équipes, même s'il ne faut pas leur trouver des excuses à chaque fois, parce qu'il faut aussi féliciter ces équipes de Cadix ou Rétafé qui font des belles performances face au Real et au Barça.
Chérif Guemour, vous aussi, vous seriez indulgent avec ces équipes qui, effectivement, Habib parle de trêve internationale. Ça veut dire beaucoup de joueurs qui ont joué avec leurs équipes nationales pendant cette trêve. Ils ne se sont pas du tout reposés.
Oui, il y a sûrement une indulgence à avoir parce que de toute façon, moi je l'avais dit cet été, dès le mois de juillet, attendez-vous à la rentrée au mois de septembre et octobre à des résultats parfois irrationnels, avec des grosses équipes qui ne marchent pas. C'est ce qu'on est un peu en train de voir dans les grands championnats, avec des petits outsiders qui se classent en haut du championnat. Pour en venir au Barça et au Real, on peut être indulgent parce que on sent la fatigue, hein. Sincèrement, quand on voit les deux équipes, c'est pas un hasard si, je crois, Zinedine Zidane, je crois qu'il change 4 joueurs à la mi-temps du Real, c'est-à-dire quelque chose qui va pas. Et après, au niveau du fond de jeu, là, c'est déjà un peu plus inquiétant parce que, ok, je suis d'accord avec toi, Habib, hein, au niveau de la possession et tous les deux équipes ont fait le jeu. Mais d'abord, elles ont été vachement secouées, enfin, surtout le Real, hein, le Barça un peu moins. Et surtout, comment dire, il n'y a pas énormément d'occasions. C'est un peu étonnant. Et surtout, le propre des grandes équipes, c'est de marquer en premier et de se mettre à l'abri. Et comme elles n'y arrivent pas, elle s'épuise à essayer de marquer désespérément, ils n'y arrivent pas, puis après, elles se font punir. Maintenant, pour en venir au Barça, ça devient de plus en plus compliqué. Genre, au niveau de Griezmann, il n'y est pas, Dembélé n'y est pas, Messi, c'est autre chose, mais il n'y est pas non plus. Bon, il n'y avait pas Coutinho. Ok.
Ouais, il est rentré en cours de partie seulement.
Voilà, mais c'est au niveau du fond de jeu, ça commence quand même à devenir un peu inquiétant.
Franck Simon, est-ce que pour vous aussi, parlons du Barça, parce que c'est vrai que la presse catalane, hein, évidemment, a visé beaucoup les deux joueurs que vient de citer Chérif, Griezmann et Dembélé, mal notés, visés par les critiques, eux aussi, surtout Griezmann.
Éreinté par les critiques.
Voilà, exactement.
Éreinté.
Et surtout Griezmann qui inquiète toujours autant.
Oui, parce que voilà, il est passé à un poste un peu plus axial, un poste où il est forcément attendu. Enfin, tout joueur qui va occuper ce poste axial au Barça, voilà, à tout moment, on peut s'attendre à ce qu'il en prenne plein la figure s'il fait pas le taf, et à savoir marquer des buts. Et il faut être bon, plus que bon, il faut être excellent. Mais les joueurs du Barça sont pas les seuls à être éreintés. Je sais pas si vous avez vu les titres de la presse madrilène ce matin.
Oui, bien sûr.
Le estado de alarme de Marca.
De Marca,
avec les joueurs qui ont les mains sur les genoux, notamment Marcelo. Ils ont relevé que, curieusement, c'était un garçon qui était là, sur le deuxième passage de Zizou sur le banc. Il est là à chaque fois, si j'ai bien compris. À chaque fois qu'il y a eu défaite, il est là. Alors, voilà. Eux, ils pointent aussi le doigt. Mm-hmm. En Catalogne, on a pointé du doigt le français Griezmann. Du côté de la presse madrilène, c'est le Brésilien, et c'est pourtant un joueur, on va dire, un joueur historique quand même, hein, Marcelo.
Oui.
Mais oui, on ne leur pardonne pas ce qu'a bien expliqué Habib, dans le sens où les calendriers sont tels qu'ils sont aujourd'hui, et c'est aussi dû à la crise.
Alors,
la crise liée
au contexte.
Oui, au contexte. Hein, ça ne justifie pas tout.
Ouais. FC Séville, par exemple, brillant vainqueur de la Ligue Europa. Ils sont dixièmes, parce qu'ils ont ils ont prêté. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à mon sens, cette saison et la saison prochaine, parce qu'on sera en Coupe du Monde et cette saison, on va être en Euro, si ça se tient, je pense qu'on va avoir deux saisons très très difficiles, un peu irrationnelles, avec des équipes qui vont plonger, d'autres équipes qui vont émerger.
Qui vont apparaître, oui.
Oui, là, on le voit clairement, la fatigue, les stades vides, les 5 changements. Il y a tout un climat qui fait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de surprises, à mon avis.
Habib, on en est à la 6e journée. C'est vrai qu'on voit Villarreal et la Real Sociedad qui sont en haut de tableau pour l'instant, hein, bien sûr. Mais on voit aussi d'autres petits clubs, Getafe, quand on y pense.
Sassuolo, deuxième en Italie, par exemple,
oui,
aussi.
Aussi, exactement. Est-ce que ça veut dire que le niveau de la Liga, on peut s'interroger sur le niveau de la Liga?
Non, je pense pas. Non. C'est juste une question de préparation. Il faut savoir que certains clubs ont dû, pour certains et pas pour beaucoup d'entre eux, mais sur le Final 8, beaucoup d'équipes ont été préparées pour être à l'optimisation parfaite de leur physique sur le Final 8. Ensuite, il a fallu refaire une autre préparation. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le Real et le Barça vont jouer à la Ligue des Champions là dans quelques jours. Donc eux,
mercredi,
dans la tête, c'est-à-dire que vous avez des joueurs qui se disent, ok Cadix, ok Rétafé, Mais il faut pas se louper sur le premier match de Ligue des Champions, c'est ce qui lance votre compétition. Alors j'ai aucune inquiétude pour le Real et pour le Barça sur les 6 matchs de Ligue des Champions, mais c'est malgré tout important de bien démarrer. Et quand un joueur sait qu'il joue 2 jours après dans un match de Ligue des Champions, sachant que vous n'avez pas de public, c'est beaucoup plus glamour de jouer en Ligue des Champions que de jouer contre Cadix et Retafé. Donc pour les grandes équipes, c'est là où justement les petites équipes en profitent. Et je pense que ceux qui ne jouent pas la Ligue des Champions, comme Cadix par exemple, eux ont été préparés pour être très très bons dès le départ, parce qu'on dit souvent, et on le dit à tous les niveaux, c'est qu'il faut prendre un maximum de points. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Mm-hmm. Et c'est ce qui permet à beaucoup d'équipes, par exemple Lens aujourd'hui en Ligue 1, vous voyez, il y a un accro là, on en parlera, mais c'est bien de prendre les points tout de suite, parce que ça vous laisse ensuite déjà moins de pression sur la suite du championnat. Et quand le money time arrive... et puis vous avez pris des points, et ça c'est important pour les petites équipes.
Franck,
on y reviendra sans doute tout à l'heure, parce qu'on va évoquer la première ligue et Everton. Everton ne joue pas l'Europe. Ça aussi, c'est un avantage.
Absolument.
Alors que Liverpool, c'est leur pain hebdomadaire. Donc ils essayent d'en profiter eux aussi, mais à un moment donné, vous savez, sur la longueur d'une saison, ça ne pardonne pas.
Hein. Je complète par rapport à ce qu'a dit Habib. Faut pas oublier non plus qu'il y a la Ligue des Champions cette semaine et il y a aussi le Classico ce week-end. Donc Cadix, je suis d'accord avec toi, c'est important, mais c'est surtout faut pas se rater. Ligue des Champions, évidemment, Classico. Enfin,
ils n'ont pas le droit de se rater, mais jamais le droit de se rater.
Voilà.
On suivra donc ces équipes en Ligue des Champions mardi et mercredi. Nous aurons même des émissions spéciales en soirée. En dépit du couvre-feu, nous, on travaillera à RFI ainsi que le service des sports et on vous parlera de ces grandes soirées et de Ligue des Champions qui reprennent en Europe.
Bien vu avec Ibrahimovic qui est servi par Çalhanoğlu. Ibrahimovic toujours accroché, pénalty obtenu par Zlatan Ibrahimovic. Kolarov est tombé dans le panneau. Milan mène bien 1-0 grâce à Zlatan Ibrahimovic. Cru en déséquilibre, le centre, Zlatan Ibrahimovic pour le doublé à la 16e minute. Le roi Zlatan a frappé fort, 2-0. Le duel a eu lieu, mais le duel est nommé Zlatan Ibrahimovic.
Et oui, un événement, surtout pour leurs supporters, évidemment. 4 ans et 8 mois que les Rossoneri ne reportaient pas le derby milanais. Et les voilà premiers de la Serie A. Une grande victoire où s'est illustré un joueur immortel. Hein, il nous avait dit qu'il s'appelait Benjamin Burton. Il revenait pourtant de l'isolement après avoir été déclaré positif au coronavirus. Zlatan Ibrahimovic qui a zlatané les espoirs de l'Inter Milan.
Una partita importantissima contro Inter, ovvio, il derby.
Ce derby était très important, un derby que l'AC Milan n'avait plus gagné depuis 4 ans. J'avais faim et je l'ai montré. L'équipe progresse beaucoup, les jeunes s'entraînent bien et ils ont tous envie de gagner. Il y a une chance de victoire pour ce Scudetto, vous savez. Celui qui y croit peut tout faire. Nous travaillons dans ce sens, puis voyons ce qui va se passer. C'est encore long. Maintenant, je me sens comme un lion avec beaucoup d'expérience. Si j'avais la condition que j'avais à 20 ans, personne ne m'arrêterait. Mais ils ne m'arrêtent pas de toute façon.
On n'arrête pas Zlatan, c'est ça, Habib?
Non, ce que je trouve extraordinaire, parce qu'on a beaucoup parlé de ce joueur-là, sur l'idée qu'il n'était pas capable de faire gagner des grands titres aux équipes dans lesquelles il était... C'est vrai qu'il a souvent loupé le wagon. Par contre, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il fixe un niveau d'exigence par rapport à ses partenaires. Et mine de rien, depuis qu'il est à Milan, Milan a tout doucement remonté la pente. Et je regardais
l'équipe.
Cette équipe. Par exemple, vous avez un duo aujourd'hui dont on ne parle pas assez en Europe, Bennacer-Kessié. C'est vraiment deux milieux de terrain aujourd'hui d'une complémentarité déjà. Et c'est surtout qu'ils sont d'une efficacité incroyable dans cette équipe du Milan. Pour moi, il y a des joueurs importants. C'est Zlatan Ibrahimovic, après il y a tous les autres autour.
Donnarumma, le gardien.
Il y a Donnarumma, mais il y a aussi cette doublette au milieu de terrain qui permet à Milan d'avoir une magnifique assise défensive. Et Bennacer, je suis surpris de sa qualité de passe, de se projeter vers l'avant, d'être capable de faire avancer son équipe. J'avais déjà été surpris à la Coupe d'Afrique des Nations, pour être très honnête avec vous, je l'ai découvert ce jour-là, en tout cas, à ce niveau-là. Je le vois aujourd'hui à un niveau avec le Milan assez incroyable. On parle beaucoup des milieux de terrain aujourd'hui en Europe. Il fait partie des milieux de terrain à surveiller, à regarder pour être peut-être un jour un peu plus haut, beaucoup plus haut même.
Franck.
Oui, il y a un côté intéressant, peut-être que tu confirmeras aussi, Chérif, côté un peu la figure paternelle. De ce joueur qui est effectivement qui pourrait être le papa de certains ou le grand frère, et ça compte parce que
ce que vous dites, c'est vrai qu'à 39 ans
ils sont à l'écoute, il est dans la transmission, il est dans le partage, et Habib a mis le doigt sur un truc très très vrai, c'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé, ça, il a transformé déjà, je pense, dans le vestiaire, dans la vie du vestiaire, dans les relations, dans l'exigence qu'il a envers lui-même, il a transmis ça aux autres et c'est une réalité.
Et si on comptait une saison finalement depuis la fin du confinement jusqu'à maintenant, le Milan assez surprend quoi par ses résultats incroyables.
J'ai pas vu l'intégralité de la rencontre, mais j'en ai suivi une partie. Ils se sont quand même fait secouer. Hein. Mm-hmm. Ça n'a pas été une
grosse équipe.
Grosse équipe de l'Inter. C'était pas la promenade de santé. Ouais. Mais voilà, lui aussi, c'est un gars qui est tellement intelligent. Il s'économise dans ses courses, dans ses appels. Il sait quand il doit y aller, pas y aller. Et
c'est ça.
C'est tout ce métier que lui est en train de transmettre et l'Inter a souffert, mais ça a été un blitz, ça a duré pendant quelques minutes, il a tout donné. Et puis après, ben l'Inter n'y est pas parvenu. Et Dieu sait qu'ils ont eu des occasions.
Mmh. Et l'Inter aussi se fait visé par la presse et notamment Conte, ses choix par rapport à ce derby.
Pareil, ils ont joué la finale et je crois qu'ils sont sixième, il me semble.
Ils vont se rebecter.
Ouais, la Juventus fait 1-1 contre Crotone. Donc pareil, ils ont fait partie du Final 8. Mais pour en venir à Zlatan,
eux, c'était le Final 8 de la Ligue Europa.
Ouais. Mmh. Mais quand même, c'était intense. La finale était magnifique. Mais pour en venir à Zlatan, faudra en partie réhabiliter l'attitude de Zlatan par exemple au PSG. Je pense qu'on a été trop dur, à commencer par moi, il y a des choses que je savais pas. Là on va parler du niveau d'exigence. Zlatan, c'est le terrain. Il arrêtait pas de motiver les petits jeunes, il comprenait pas que les petits jeunes du PSG manquent d'ambition, ça l'énervait. Il avait de l'attention pour le petit personnel, par exemple à la fin de l'année on rassemble les joueurs rassemblent un peu d'argent pour la caisse. Il y en a un qui avait pas payé, mais il a fait un scandale, quoi. Il dit, OK, d'accord. Il y avait des joueurs qui avaient pas payé, mais
Quand il était au PSG.
Mais il a dû continuer.
Il ne supporte pas les retards à l'entraînement. Il ne supporte pas le manque d'ambition des jeunes. Il n'intervient pas dans les choix du coach. Hein, là-dessus, pas de problème. Et il est très attentionné pour le chauffeur, pour les balayeuses, pour le magasinier. Mais moi, je le savais pas. Et c'est lui qui a fait passer un cap et malheureusement Paris n'a pas gardé l'esprit de Zlatan.
Ce joueur est assez incroyable. Par exemple à Paris Saint-Germain, il demandait en fait à l'adjoint de Laurent Blanc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc Philippe Lambert lui expliquait quel était le contenu de l'entraînement. Il lui disait pourquoi on fait ça. Explique-moi pourquoi on fait ça. Et on se rend pas compte, mais j'ai discuté avec Laurent Blanc. Il disait en fait c'était pas nous, on le prenait pas comme quelque chose d'irrespectueux. C'est qu'il voulait savoir pourquoi on le faisait en fait, pour ensuite surtout distiller l'information à tout le monde et de faire comprendre à tout le monde quel devait être le niveau d'exigence à l'entraînement. Parce que ça on se rend pas compte, mais ce sont des joueurs qui parlent beaucoup, il se met en avant, il dit que c'est lui.
C'est un gros chambre.
Par contre quand il est à l'entraînement, je peux vous garantir, c'est pas le dernier. C'est pas celui qui est derrière, c'est toujours celui qui est devant.
Il se cache pas.
C'est toujours celui qui motive, c'est toujours celui qui veut gagner. Et on se rend pas compte, mais dans un groupe, c'est essentiel. C'est primordial. Et c'est aussi pour ça que les grands clubs ont du succès. C'est parce qu'il y a des personnalités comme ça. Alors, il peut être détestable. Mais je trouve que depuis qu'il est au Milan, cette équipe s'est métamorphosée dans l'ambition. Et elle s'est métamorphosée aussi avec lui.
Alors, Habib, métamorphosé dans l'ambition, on sait que la Juventus, comme d'habitude, vise évidemment le Scudetto et ça serait son 10e consécutif. Est-ce que le Milan, pour vous, c'est une équipe qui peut tenir la distance?
À partir du moment où le Milan est en Ligue Europa, oui. Si je dis pas de bêtises, et pas en Ligue des Champions, l'exigence de cette compétition pour des clubs qui ont un effectif élargi, et c'est le cas du Milan, même si c'est pas aujourd'hui l'effectif de l'Inter Milan, mais ils ont quand même un effectif conséquent, donc ils vont pouvoir gérer sur la Ligue Europa qui sera moins difficile dans un premier temps que lorsque vous êtes dans une campagne de Ligue des Champions. Et c'est là, on en parlait avec Chérif tout à l'heure, c'est vous pouvez perdre beaucoup de plumes, on se rend pas compte, mais en phase de poule. On a l'impression que pour certains clubs, c'est très simple, c'est-à-dire que vous avez un maximum de points, mais on se rend pas compte à quel point ils perdent de l'énergie, ils perdent des joueurs à ce moment-là dans cette configuration de ces 6 matchs de Ligue des Champions. Or, je pense que le Milan, au même titre qu'Everton en Angleterre, pourrait être une forme de surprise. Alors la Juventus est bien au-dessus, l'Inter est bien au-dessus en termes d'effectifs. Mais on se rend pas compte dans cette saison un peu particulière à quel point le calendrier, les compétitions que chacun a jouées peut avoir un rôle important sur la victoire finale sur un championnat. Je pense qu'on sera surpris cette saison sur certaines finalités de championnat en Europe.
Franck, vous pensez aussi l'année dernière déjà l'Italie, ça a été bien disputé. D'habitude c'était
très animé.
Il y a eu la Roma, après il y a eu Naples qui disputait un peu mano à mano à un moment les saisons dernières avec la Juve.
Honnêtement la saison dernière a été intéressante avec la Lazio, l'Inter bien sûr, mais et puis l'Atalanta qui était là pour bousculer tout le monde.
Il n'y avait pas qu'un seul club pour être challenger.
Tant mieux. On peut pas se plaindre. On a eu une saison italienne. En plus c'est allé pour le coup, ils sont allés jusqu'au bout. Franchement, c'était du plaisir, de les voir évoluer. Parce que on a oublié ça. On s'est dit à un moment donné, il y a la Juve et puis rien derrière. Et moi, franchement, je pensais que la Lazio allait le faire.
Mais c'est là où la Juve a perdu de l'énergie à lutter en championnat. Et cette énergie, ils l'ont pas eu sur la Ligue des Champions.
Parce que tu reportes sur une compète.
Voilà, exactement. Quand ils avaient 15 points d'avance, avant un match de Ligue des Champions, ils mettaient 10 mecs au frais. Là, en l'occurrence, il a pas pu l'année dernière. Avant la Ligue des Champions, il était obligé de mettre l'artillerie lourde parce qu'il y avait la Lazio qui, derrière, était un petit peu pressée la Juve. Mmh. Et ça, c'est important. Quand vous avez 10 points d'avance, une semaine avant la Ligue des Champions, Neymar, tu restes à la maison. Le PSG a fait ça.
Bien sûr.
Le PSG a fait ça. Pourquoi Neymar a été aussi frais pendant la Ligue des Champions? Mine de rien. C'est qu'à chaque fois que, déjà, il a pas repris le championnat avec la Ligue 1, donc il était tranquille. Mais pour les grands clubs, c'est ça. Le Bayern Munich.
La gestion.
Le Bayern Munich s'est permis.
Préservé.
De mettre Lewandowski, de mettre.
Ils ont été champions tôt.
Perisic.
Suffisamment tôt.
Parce qu'ils étaient champions avant.
Mm-hmm. Ouais. Vous aussi, vous trouvez ça d'ores et déjà passionnant, cette Serie A?
Déjà, elle commence à le redevenir. Mm-hmm. Par exemple, il y a une bonne surprise, Gattuso. J'avais dit du mal de Gattuso. Enfin, je me rends compte qu'il est en train de faire, non, du bon boulot à Naples, faut le reconnaître. Ouais. C'est l'équipe. J'ai vu un peu.
Ils ont bien recruté aussi.
Il y a l'Atalanta. La Juve, c'est la Juve. Je m'inquiète pas pour eux. Et puis
là aussi, il y a des surprises. Vous disiez tout à l'heure Sassuolo qui est deuxième avec le Marseillais Maxime Lopez.
Et on a Ribéry qui est toujours là-bas.
Oui.
Franchement, c'est un championnat qui est plus intéressant qu'il n'y paraît.
Ça revient.
Ouais. Continue d'intéresser.
La Serie A, ouais.
Très bien pour ce qui est du football européen. Alors on continue et ce coup-ci, on va du côté de l'Angleterre.
Come on line! The big boy comes up trumps again! Slide pass for Mane and swept in by Henderson! The skipper's won it for the Reds in stoppage time!
On attendait beaucoup de ce duel de part et d'autre des rives de la Mersey à Liverpool. Les Bleus de Carlo Ancelotti recevaient les Reds de Jürgen Klopp. Et Everton, a confirmé, après ses 4 victoires en 4 matchs, les Toffees pouvaient résister finalement aux champions sortants de Liverpool. Everton a été mené 2 fois, revenu 2 fois à la marque. Franck, je sais que vous aimez regarder cette équipe d'Everton depuis longtemps.
35 ans.
Les Toffees ont-ils, on peut dire, du répondant? Même si là, ils n'ont pas remporté ce match. Bah, et qu'ils ont, on a vu aussi, bénéficier un peu.
Vous avez fait la synthèse de la rencontre. Il y a eu du répondant, puisqu'ils ont réagi 2 fois.
Exactement.
Après, pour moi, ça tient quand même du miracle, à l'arrivée. Enfin, les circonstances leur sont plus que favorables. On ne peut pas faire la fine bouche quand tu sors d'un match comme ça, 2 buts partout, alors que ton gardien doit être expulsé.
Qui a fait un super match, le gardien.
Ouais, qui a fait un super match. Mais enfin, le 3e but, il le prend. Il n'est pas exempt de tout reproche. Là, tu peux, tu vois. Il n'est pas expulsé, mais il y a le 3e but qui était vraisemblablement valable. Franchement, moi, je regardais le match, j'étais content, mais je me disais, franchement, c'est très très bien payé. Et tant mieux pour eux, mieux pour Carlo Ancelotti, parce que je trouve que, voilà, on parle des entraîneurs qui apportent quelque chose. Lui, depuis qu'il est arrivé sur le banc, il a aussi redynamisé tout ça. Et puis bon, on va pas mégoter, hein. Il y a aussi des joueurs de grande qualité qui sont arrivés enfin à Everton, enfin.
Non, mais
Shérif.
Pareil, oui, bon, on peut dire que Liverpool a eu l'ascendance, un match qu'ils auraient dû gagner en temps normal. Bon, le problème, c'est bon.
Ils pensaient aussi à la Ligue des Champions.
Le problème, ça a été la VAR et l'arbitrage, c'est faut le dire.
Après,
c'est choquant l'agression. Moi, je suis gardien, c'est choquant.
Tu vois, ce qui est choquant, c'est qu'il doit prendre rouge. Et ce qui est choquant, c'est que ça va être 6-7 mois pour Van Dijk.
Exactement.
On va attendre quand même.
En fin de match, il y a ce choc. Et le défenseur de Liverpool, Virgil Van Dijk, et on connaît au combien il est important.
Alcantara qui est blessé aussi.
C'est surtout sur la base défensive, le gardien qui est en Alisson et Virgil Van Dijk, ça fait quand même les deux tauliers de la défense. Même le gardien, il fait partie de la défense. Il joue au pied, il fait partie du jeu. De toute façon, ils sont pas là tous les deux. Virgil va pas être là. Alcantara, bon, on espère que ça. Donc déjà, il y a un choc psychologique. Ce match en temps normal, bon, évidemment, je pense que Liverpool aurait dû le gagner. Mais voilà, on est en Angleterre, comme le rappelait Habib, à la 90e minute, un match n'est jamais fini, d'un côté comme de l'autre. Ils se sont battus. Il y a encore de la qualité. On voit James. Pour moi, c'est une résurrection. C'est un joueur que j'avais enterré comme Thomas Müller. Il est encore là, il fait encore des bonnes choses. Puis ils ont
belles choses aussi en plus.
Ouais, puis après il y a leur attaquant. Puis je veux dire les buts qui marquent, comment dire, il y a des petits temps forts comme ça d'Everton. Alors le premier but c'est sur corner, ok, c'est un coup de pied arrêté, mais l'autre but c'est une vraie action de jeu, quoi, un débordement, une tête, le gars ils sont là, il a fait des progrès. Ancelotti fait progresser ces joueurs là. Donc, demi-surprise quand même. Mmh. Voilà, c'est une bonne équipe quand même.
Habib, du côté de Liverpool, on a eu un duo Mané-Salah qu'on a retrouvé et qui, du coup, non seulement on le retrouve, mais en plus il est parfait. Chacun marque. Salah a même marqué son 100e but.
Oui, Salah a marqué un magnifique but, relâchement total sur cette demi-volée, sur un très très mauvais renvoi de Yerry Mina, qui a choisi de faire une aile de pigeon, mais ça c'était son choix. Mais c'est vrai que on retrouve Salah et Mané toujours aussi importants dans les statistiques, même si je considère et je continue de penser qu'ils sont pas forcément les joueurs les plus complémentaires à vouloir se trouver. Ils sont complémentaires quand on les regarde,
mais ils ont pas cette
volonté, en tout cas plus pour Sadio, moins pour Mohamed Salah. Mais encore une fois, ce sont maintenant, ce sont devenus des serial buteurs. Avant, Sadio était au service de Mohamed Salah. On sent bien que Sadio, maintenant, il veut prendre le leadership, et il a raison. Mais on sent pas une entente exceptionnelle entre ces deux joueurs. On voit très souvent Sadio reprocher à Mohamed Salah de pas l'avoir trouvé. Mais ça fonctionne.
Non, mais quand ils sont là tous les deux, ils gagnent, en tout cas.
Oui, mais parce que Firmino,
je trouve que Firmino est depuis, quand même, il est un peu moins bien. Il sert toujours le collectif.
Ouais.
Mais je trouve qu'il est un peu moins bien. Il est un peu moins bien, mais le grand problème pour Jurgen Klopp, ça va être l'absence de Virgil van Dijk, qui avait pris un ascendant psychologique sur cette équipe, ce leadership. Alors il a été en finale de Ligue des Champions avec Karius, Lovren et Matip, sans Virgil van Dijk la première année. Il gagne la Ligue des Champions ensuite avec Virgil van Dijk, donc ça veut dire que c'est possible aussi de continuer à être performant sans Virgil van Dijk. Mais quand on voit l'emprise qu'il avait sur cette équipe, dans ce leadership, sa capacité à les faire jouer à 50 mètres de leur but.
Et les coups de pied arrêtés aussi,
ça va être un gros problème de le perdre aussi longtemps. Il faut espérer justement que...
Et Thiago aussi.
Apparemment, ça serait peut-être un peu moins grave. En tout cas, Liverpool...
Le tacle de Richarlison est horrible. C'est horrible. Je pense qu'ils vont prendre les deux... Apparemment, on reviendra pas sur Pickford, même si c'est possible, ils disent que...
Oui, Pickford, le gardien d'Everton, indirectement, mais blesse...
Bon, moi, je suis pas inquiet pour Liverpool, parce que, encore une fois, ça reste une équipe très compétitive et qui a construit un collectif, et je pense qu'ils seront capables de pallier l'absence de l'un ou de l'autre. Ils seront moins forts, forcément, sans Van Dijk.
Je voulais revenir sur Everton. J'ai un peu peur qu'ils soient quand même... Je dirais pas qu'ils soient en sur-régime, mais enfin, faut pas qu'ils s'inventent une autre vie. C'est-à-dire, la place du club, si ça fait top 6, c'est bien, quoi. Top 6, top 7. Ne pas imaginer titiller trop longtemps, quand même, les gros. Ce qu'ils réalisent est déjà très bien. Et à des moments, en première période, je regardais cette équipe que j'aime vraiment, fondamentalement, quoi. Et je regardais au milieu de terrain. Enfin, c'était horrible. Enfin, tu touches pas le ballon, quoi. T'as Liverpool en face, t'as Boet à Goodison Park, tu ne touches pas le ballon. Quand ils décident d'accélérer, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que ce résultat, le fait qu'ils aient su réagir, parce qu'il y a un fort mental, merci Carlo Ancelotti, c'est aussi ça, quoi. Tu vois, c'est l'apport de ce monsieur, comme on l'a connu avec le Paris Saint-Germain, et en mieux encore, là. Ça a été un match, c'est un match qui a tenu ses promesses, sauf que c'est un autre scénario si vous imaginez que Van Dijk reste sur le terrain. Je suis pas persuadé qu'il prenne les buts de la tête.
Ils ont le poteau de Richarlison où ils peuvent faire aussi la différence. Mais là où je suis d'accord, c'est que Liverpool est une équipe bien supérieure, on l'a vu. C'est eux qui ont été les patrons du match. Ce qui est très intéressant pour Ancelotti, c'est que je trouve que cette équipe, elle est un peu caméléon. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui sont très ciblées, par exemple, on le dit avec Salah et Mané. Everton a cette capacité à trouver des situations dans le jeu, et elle a aussi des capacités à être bon sur les coups de pied arrêtés et sur toutes ces situations de centre, parce qu'ils ont un attaquant, Calvert Lewin, qui monte à...
Ouais, c'est une détente verticale incroyable.
Ouais. Et c'est sur ça où, lorsque les matchs seront fermés, ils auront des opportunités de les gagner grâce à cette capacité à marquer sur les coups de pied arrêtés. Et puis c'est vrai que Carlo Ancelotti, on sent qu'il y a une sérénité. Quand on le voit aux côtés de Jurgen Klopp, on se dit... On est face à deux géants.
On est face à deux
géants.
Respect.
Parfois, quand on a des équipes, on se dit bon, il y a un géant et puis il y a un mec en formation ou il y a un entraîneur qui
là, on sentait le respect même après
c'est Everton. Il aurait été entraîneur de West Bromwich, on aurait dit c'est deux géants. Ouais. C'est ça qui est assez incroyable.
On
c'est
sent
que
leur
il est plus puissant que l'équipe.
Et
c'est une force, ça, mine de rien.
En 2016, il y a une équipe, on l'avait pas vu venir, qui s'appelle Leicester. Tu vois, ils se sont révélés au fur de la compétition. Et là, ça peut arriver à Everton aussi.
Écoute, je dirais pas non, mais
après, faut bien rester.
On va les brûler des cierges alors.
Faut bien rester dans le wagon de tête jusqu'à la trêve. Et après.
Et puis il y aura City, parce que même s'ils n'ont pas été bons contre Arsenal, il y aura City. Quand on voit l'équipe, c'est.
Oui, c'est vrai. On a l'impression, parce qu'ils étaient un peu à la peine ces premiers jours.
Ils sont à la peine, mais après un final 8,
on retombe un peu sur les mêmes explications.
On en reparle, je pense, dans un mois et demi. Et on aura sans doute une analyse qui aura encore
évolué.
Moi,
je pense qu'on verra réellement le niveau des équipes, et c'est ce que tout le monde dit. On aura fin novembre, début décembre. On va voir vraiment si des équipes ont raté complètement leur préparation, c'est-à-dire que ça sera difficile de revenir. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont négligé en quelque sorte le début de saison en se disant de toute façon c'est pas maintenant qu'on doit être bon avec la pandémie, le contexte. Mm-hmm. Et je crois qu'il y a des équipes qui ont vraiment préparé le groupe pour être bien sur la deuxième partie de la Ligue des Champions, voire attaquer les matchs huitièmes de finale, parce que ça va être l'enjeu. Et personne ne sait ce qui nous attend. Peut-être qu'aujourd'hui, l'UEFA peut dire, on repart sur un... Parce que je ne sais pas si ça a été décidé, pour le coup, je n'ai pas l'information, mais...
Sur un Final Four. Enfin, un Final, selon
les contextes aujourd'hui social, mondial, peut-être. On pourrait repartir sur cette configuration-là. Oui. Et ça a changé beaucoup de choses, mine de rien.
Beaucoup de choses.
Sur la préparation, ça change énormément de choses. Et peut-être qu'il y a des clubs qui l'ont anticipé.
Mmh. On n'est pas à l'abri, hein, évidemment, des mesures sanitaires qui s'ajouteraient aux décisions sportives. Allez, on continue, et là, on fait un petit crochet, bien, par la Ligue 1.
4-0 pour Lille qui a surclassé son voisin dans tous les domaines. Le LOSC est le nouveau leader invaincu de Ligue 1, Uber Eats.
C'est une belle victoire, elle est importante. Les joueurs avaient à cœur de gagner pour nos supporters qui sont frustrés depuis quelques mois.
Le derby du Nord, on y était au Nord, là où il fait froid, n'est-ce pas, dans certaines séries télé, entre Dog et Mineur donc. Et ce match a viré au cauchemar pour le RC Lens, un promu qui a pourtant bien commencé hein, sa saison parmi l'élite, mais qui a fini ce match à 9. Alors que le LOSC, implacable, marquait 4 buts et s'installait en tête de la Ligue 1. Les Lillois, avec toujours ces Jonathan, avec Bamba, avec Ikoné, bien sûr, et qui commence mieux la saison que l'an dernier. Un match parfait même à estimer l'attaquant lillois Luis Araujo. Sont-ils bien partis, ces Lillois, cette saison? On se souvient que l'année dernière, ils étaient tellement à la peine que cette année, ils ne disputeront pas la Ligue des Champions, Sheriff Gamour.
Oui, parce que la saison dernière, ils avaient perdu pratiquement un joueur par ligne. C'est ce qui est,
oui, ils avaient vendu.
Oui, entre autres, Pépé en attaque. Mais là, c'était pareil, ils ont perdu Osimhen Rémy, c'était la paire d'attaquants. Alors c'est simple,
Osimhen Lille. Osimhen qui est très bien à Naples.
Hein. Ouais, voilà. C'est simple, Lille, je regarde tous leurs matchs. Parce que pour moi, c'est une machine. Pour moi, c'est l'équipe la plus rationnelle, la plus cohérente tactiquement de l'un. Plus que Paris, par exemple. Paris, ils ont des individualités, on va pas revenir là-dessus. Ils peuvent faire basculer un match quand ils veulent, gagner où ils veulent et tout, pas de problème. Mais après, au niveau de la cohésion, au niveau de la cohérence, moi, je regarde l'équipe. Chaque joueur est à sa place. Il y a une vraie colonne vertébrale. Il y a un grand gardien, Mignon dans les buts. Il y a Fonte, c'est le chef de la défense. Devant lui, il y a André, c'est le patron. Et devant, on a notre ami... Burak Yılmaz, absolument, et tout, qui commence à pointer le bout de son nez. On a une vraie colonne vertébrale. Et sur les côtés, bon, bah, on est Bamba, Ikoné, ça bouge de tous les côtés. Les latéraux, Bradaric et Celuk, au début, je les trouvais pas, maintenant, ils participent au jeu. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Et moi, personnellement, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné, hors Paris, évidemment, parce que Paris est hors concours, avec Rennes. Mais Lille, je ne rate aucun de leurs matchs.
Alors Lille, hors concours avec le PSG, mais ils sont premiers du championnat de France. Et là, il y a le même nombre de matchs entre Lille et le PSG. Franck.
Moi, j'ai passé mon tour, tout simplement, parce que je n'ai pas pu voir ce match. J'en ai vu des extraits.
Non, mais Lille, sur sa cohérence,
C'est une réalité, avec en plus un modèle économique que tout le monde connaît. On sait bien, voilà.
Ils vendent les meilleurs,
Chaque saison, c'est un modèle qui ne vient pas du football français. Hein. On a vu notamment du côté du FC Porto il y a 10-15 ans quand ça a commencé.
Oui, mais vous voyez, ça n'aura pas forcément porté chance.
Non, mais voilà, mais pour Lille, c'est un modèle qui, pour l'instant, fait leur affaire. Moi, j'avoue, je suis pas trop surpris qu'ils aient battu Lens, mais c'est plus
la manière.
Dans la manière, quoi. Voilà. C'est pour revenir aussi à ce que disait tout à l'heure Habib, mais sur un autre championnat, les points que tu prends là, ils sont plus à prendre ensuite. Mmh. Et du coup, ça met la pression sur les adversaires directs. Eux aussi, ils ont des ambitions. T'as des ambitions européennes, etc. Donc, c'est bien. Ça permet aussi d'animer toujours plus notre championnat français. Et tant mieux, quoi.
Habib, c'est Dog Lillois.
Ben, ces Dog Lillois, ils sont solides. Je dirais même plus qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. Parce qu'on le dit pas assez, mais ils ont recruté Botman derrière, qui est parfait avec José Fonte. Caractère.
20 ans.
Solide. C'est un joueur qui arrive, qui débarque dans cette équipe et qui montre toute sa capacité à être un leader aux côtés de José Fonte.
Ils ont peut-être gardé plus dans l'ossature et dans les joueurs importants, Lille, par rapport à la saison d'avant.
Oui, et puis
s'ils ont perdu
on oublie que vous développez Araujo depuis maintenant 2 ans. Ouais. Qui était un joueur.
Lui, pour le coup, il l'a gardé.
Voilà, qui était intermittent du spectacle. Ouais. Il est arrivé avec Bielsa. Hein. Je pense qu'il était déjà là avec Bielsa. Donc, on va dire 2 ans et demi.
Ouais, ouais.
Vous l'avez développé. Renato Sanchez, qui à un moment donné va. arriver à maturité lui on aussi. Espère, on le dit pas assez, mais c'est un jeune joueur. Benjamin André, pareil, solide. C'est un petit peu lui qui coordonne tout. Et c'est puis je trouve que quand vous prenez Yilmaz par rapport à Loïc Rémy, vous prenez quelqu'un qui a vécu des choses.
C'est un autre Zlatan à sa façon.
Oui, exactement. C'est quelqu'un,
c'est le roi des buteurs en Turquie.
Mais regardez-le. Regardez-le dans ses efforts, dans ce qu'il donne.
J'ai eu à le commenter la saison dernière.
Il donne l'exemple. C'est un mec qui est un peu sombre. Il est un peu sombre. Il n'hésite pas à mettre le coup quand il faut. Et puis le problème qu'il y a eu sur ce match, c'est que Lens, ils l'ont joué deux jours avant le match. Ils l'ont joué la veille. C'est-à-dire émotionnellement, ils se sont vidés. C'est-à-dire que ce derby, parce qu'ils reviennent en Ligue 1, derby qui prend un maximum d'énergie avec les supporters qui les ont accompagnés, les gens qui sont venus à l'entraînement, Lille, ils l'ont préparé comme un match ordinaire. C'est-à-dire pour Lille, c'est un match de plus. Pour Lens, c'était le match de l'année avec un super début de saison.
L'un des deux matchs de l'année.
Voilà. Il y a le retour aussi. Et on espère que ce retour se fera avec du monde
parce que ce sera plus serein.
Parce qu'on espère que déjà tout s'améliore aujourd'hui dans le monde entier, en Europe et ailleurs. Mais c'est vrai que voir un derby sans supporters, c'était difficile. Par contre, oui, Lille est supérieure à Lens, il y a rien à dire. Mais pour moi, Lille est une équipe meilleure que l'année dernière. L'année dernière, s'il n'y a pas l'arrêt du championnat de la Ligue 1, pour moi, ils sont en Ligue des Champions. Ils auraient fait leur retard, ils étaient en train de revenir.
Ils sont un peu mal partis, ouais.
Et encore une fois, à la différence de Rennes, à la différence d'autres équipes, ils vont pas jouer la Ligue des Champions.
Oui, puis on se souvient du bip-bip de l'époque de Pépé avec Bamba et Ikoné qui sont toujours là et qui se trouvent toujours.
Sauf qu'Ikoné est sur le banc. Bamba est très très bon en ce moment. Ikoné est sur le banc. Voilà. Il est en train de piquer un peu parce que.
Ikoné international et Bamba, il en a déjà 3 buts, hein, il me semble. Il fait déjà une meilleure saison que l'année dernière.
Ils inscrivent 2 buts chacun.
Un petit mot sur Galtier. Oui. C'est un de nos entraîneurs les plus intéressants en France, de L1. Il monte progressivement. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément sur le jeu. Il le disait déjà à Saint-Etienne. C'est pas un hasard s'il les a mis dans les 5 premières places pendant des années. Il a un projet de jeu qui développe. Il se pose beaucoup de questions sur le jeu, un peu à la manière des grands entraîneurs qu'on a un peu partout en Europe. Et c'est un entraîneur à suivre.
Il a Campos à ses côtés qui, vous avez vu, il y a un petit peu de nuages dans la relation Campos-Ingla. Et par contre, ça pourrait être une mauvaise chose pour Lille si Campos venait à quitter le club parce qu'il a fait un boulot excellent. Il s'entend très 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 bien avec Galtier. Quand Galtier lui demande un profil, il lui apporte. Et ça pourrait être une forme de petit séisme s'il venait à partir de Lille. Alors après, ça n'aurait pas d'incidence là, mais ça aurait une incidence sur le projet lillois. Ouais. Ça aurait une incidence sur la stabilité de ce projet lillois.
En tout cas, ceux qui veulent être aussi des challengers du Paris Saint-Germain, et ils l'ont dit en début de saison, ce sont les Marseillais. Peut-être sont-ils enfin lancés après 4 matchs sans victoire, eux, alors qu'on venait de parler d'autres qui gagnent tous leurs matchs depuis le début de saison. Eh bien, l'OM a gagné et en battant Bordeaux 3-1.
Attention à Thauvin aux 30 mètres, peut-être l'enroulé de Florian Thauvin. La spéciale de Monsieur Florian Thauvin.
On avait besoin de cette victoire. J'espère que ça nous va donner un peu plus de confiance. On a monté à un niveau personnel aussi. Tout le monde a été bien impliqué. Collectivement aussi, ça a bien marché pour nous. Très bon jeu, bien dans l'intensité. Très bon match de notre équipe.
Habib Bey, est-ce que c'est un très bon match de l'OM?
C'est un très bon match quand vous gagnez 3-1, mais il faut relativiser.
Oui, mais au-delà du résultat.
Au-delà du résultat, c'est une bonne analyse de la part de Villas-Boas, parce que déjà, il avait changé de système. Il était passé sur un losange. Bon, qu'il faudra revoir, parce que, encore une fois, c'est un système très difficile à assimiler et ça permettait aussi de mettre Cuisance à un poste où il est intéressant parce qu'il a une bonne patte gauche.
Mais il vient d'arriver.
Mais quid Payet quand Payet va revenir. Donc il va falloir de nouveau s'adapter à Dimitri Payet. Et puis quid de ce qu'il y avait en face. Quand on voit Bordeaux, malheureusement, c'est une équipe qui a laissé des boulevards. C'est une équipe qui a subi complètement le match, qui n'a rien essayé. Et puis qui manque d'ambition.
Mais dans le symbole là, c'était au Vélodrome.
Il y a eu un mieux au niveau du jeu, et ça c'est une bonne chose. Il y a eu un mieux dans l'assimilation du système. Dire qu'aujourd'hui c'est le système qui convient à Marseille, je dirais que non, ça a fonctionné sur ce match-là. Ce qui est bien, c'est qu'on a un Florian Thauvin qui continue à marquer en plus un très beau but. Donc pour sa confiance, c'est essentiel. Le quid toujours, Benedetto. ça devient.
Ils décollent pas.
Ils ont joué ensemble devient, et il ça n'a devient pas problématique.
Il y a de la blessure. Ça devient en plus, problématique. Hein. Il y a une blessure ouais. en plus. Hein.
Ça devient problématique.
Une victoire donc importante pour renouer en tout cas, eh bien, au moment, disons, où l'OM renoue avec la Ligue des Champions, les joueurs y pensaient tous. On n'arrête pas d'en parler ici dans tous les championnats. Et écoutons Jordan Amavi qui a été un des buteurs de la soirée et qui lui aussi, bien sûr, y pensait.
C'est sûr qu'avec l'équipe, on a envie de faire une bonne figure en Champions League. Donc voilà, on va faire le nécessaire pour bien se reposer, pour bien préparer ça. Et personnellement, ben voilà, c'est magnifique de la jouer, d'autant plus avec l'OM. Mais voilà, il va nous manquer quand même les supporters quand on sera à domicile. C'est très dommage. Mais bon, voilà, on a quand même fin d'Europe.
Franck, fin d'Europe. Alors, ils iront jouer à l'Olympiakos qui a gagné dans son propre championnat par 4 à 0. Évidemment, une victoire, c'est toujours mieux hein, pour partir, peut-être pas la fleur au fusil, mais un peu plus allègre dans le groupe.
Ce que Chérif et Habib viennent de dire, c'est que effectivement, sur le plan de l'animation offensive, ça s'est bien passé. Les joueurs qui sont devant, le
voilà,
milieu,
et,
mais derrière aussi, ça a bien. Enfin, je trouve que au niveau des latéraux, il y a eu des choses intéressantes. Donc, je pense que ça rejaillit sur tout un groupe, tout un collectif. C'est pas que le type qui a mis ce but exceptionnel, qui a fait une passe décisive, qui s'appelle Thauvin, quoi, qui a été.
Et qui rate un pénau.
Oui, voilà. Mais bon, enfin, il a ce but. Je trouve qu'il rachète malgré tout, tu
non,
vois.
Non, mais bien sûr.
C'est un
bien
but,
sûr,
ouais. C'est un but incroyable. Ouais. Et ben, enfin, on sait qu'il est capable de les marquer. Donc, du coup, je pense que c'est un gros boost moral avant d'aller là-bas en Grèce où on sait que c'est
à huis clos.
Ouais. Mais c'est pas simple.
Ouais.
Ça reste.
Ah non, je dis pas.
Le contexte grec, supporters, pas supporters, tout ça. Les Grecs, eux, ils s'en foutent. Hein,
ouais,
sur,
puis,
ils arrivent
puis,
sur
puis,
le terrain.
Et puis ils gagnent en ce moment et ils ont un attaquant qu'on a connu en France du côté de Caen, El Arabi, qui enfile les buts. Enfile ouais, les pertes. Ouais. Et c'est surtout qu'à un moment donné, la Ligue des Champions, il faut juste que tu élèves ton exigence et ton niveau d'intensité. Ce qui a manqué à Marseille, quand même, sur tous les derniers matchs qu'on a pu voir en Ligue 1, c'est cette intensité constante. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question la qualité d'un Thauvin, on remet pas en question. On l'a vu contre Paris. L'équipe type est bonne. Mais le vrai changement en Ligue des Champions, au-delà de ton niveau et ta qualité intrinsèque, c'est qu'il y a certaines équipes, et il ne faut pas l'oublier, l'Olympiakos est un habitué de la Ligue des Champions.
Ouais, tout complètement.
C'est-à-dire que peu importe.
De la phase de groupe.
Voilà. Mais ce sont des habitués, c'est-à-dire que eux, c'est pas un événement.
Non.
Pour Marseille, c'est un événement. Donc il faut absolument gérer ce côté émotionnel et être capable surtout d'élever ce niveau d'intensité. Et qu'il ne soit pas sur 10 minutes, qu'il le soit sur 90 minutes.
Est-ce que Villas-Boas, Chérif Guémour, est l'entraîneur qui peut leur faire passer justement ce message finalement de besoin d'intensité, de Ligue des Champions? Certains connaissent bien sûr la compétition. Mais...
Alors moi je pense que oui, parce que c'est très intéressant à chaque intervention de Villas-Boas. Il n'y a pas de langue de bois. Quand c'est bon, il dit que c'est bon. Quand c'est pas bon, il dit que c'est pas bon. Donc lui, il ment pas à son groupe et aux journalistes. Première chose. Deuxième chose, il a quand même un peu l'expérience de la Coupe d'Europe. Il en a gagné une Europa League. Et troisièmement, alors c'est un petit truc. Alors on va voir si ça marche ou pas cette année. Et là, pour compléter un peu ce que dit Habib, monter un peu son niveau d'exigence et d'intensité. Marseille et la Coupe d'Europe, il y a une mystique. Elle a toujours existé, peut-être une année, je pense, ils ont fini dernier de leur poule en Ligue des Champions il y a quelques années. Ça a été l'exception notable, mais il y a une histoire de l'OM avec la Coupe d'Europe. On appelle ça la mystique, de la même façon que le Real avec la Ligue des Champions, il y a une mystique. Peut-être qu'ils vont la retrouver et que les mecs, ça va les booster. Et puis partir avec une victoire.
Ils sont dans l'obligation, chérie. Ouais. Ils sont dans l'obligation.
Ah
parce
non,
que
mais évidemment.
Quand tu regardes le calendrier, et ouais, c'est très important en Ligue des Champions,
ouais,
tu vas à l'Olympiakos.
Tout de suite, hein. Ouais, ouais.
Et derrière, tu joues City qui est l'ogre, en ouais, quelque sorte, du groupe, et tu vas à Porto.
Ouais.
En imaginant que tu ne fasses pas un résultat contre l'Olympiakos et que la logique soit respectée.
Tu peux avoir 0 point en 3 matchs.
Tu peux te retrouver avec, allez, peut-être un point que tu iras chercher à Porto, ouais, mais bon.
C'est fini.
Mais voilà, t'es déjà en grande difficulté. Donc, le match au Olympiakos te permet quand même de voir City arriver au Vélodrome avec pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Avec l'idée de te dire, bon, si je prends un point, si je limite la casse sur un match comme celui-ci, c'est bien. Tu vois. Par contre, si tu démarres mal contre l'Olympiakos, je suis pas sûr que ça soit le calendrier est important, on se rend pas compte, mais c'est important dans la gestion, surtout pour Villas-Boas, parce que c'était la question par rapport à lui. Et c'est vrai que l'expérience qu'il a, et je trouve qu'il renvoie un message super positif, parce qu'il est pas dans la langue de bois. Et là où je te rejoins, c'est qu'il dit la vérité à son groupe. Et c'est sûrement pour ça que son groupe est derrière lui et son groupe donne pour lui aussi.
Qui lui ont demandé de rester.
On verra ça donc dans les prochaines émissions de Radio Foot. Faisons un petit crochet, Franck, par l'Afrique et par les Égyptiens. La Ligue des champions en phase finale en Afrique. Les demi-finales ont enfin pu se disputer. C'était au cours du week-end et la question est... aura-t-on une finale 100% égyptienne? Parce qu'à Casablanca, d'abord Al Ahly a disposé du Wydad sur le score de 2-0. Ensuite, le lendemain, c'est le Zamalek qui a battu le Raja, les deux clubs de Casablanca, et c'était au stade Mohamed V.
Un stade vide.
Oh oui, bah, mais tous les stades sont vides actuellement. Non, mais je sais. Ça nous désespère tous, shérif. Là, c'était 1-0. Les matchs retour auront lieu le 24 octobre prochain. Les Marocains vont-ils renverser la tendance, Franck Simon?
C'est pas impossible pour le Raja.
Je le pense aussi.
Qui a montré un visage juvénile très intéressant et puis qui méritait hier soir au stade Mohamed V d'égaliser. Ils n'y sont pas parvenus parce qu'en face, il y avait un gardien qui était très inspiré. Mais franchement, on a vu des choses, ils sont prédisposés. Ils viennent de remporter le championnat. Et moi, honnêtement, je pensais qu'ils allaient faire quelque chose contre ce Zamalek qui a pas grande imagination dans ce qu'il propose dans le foot, mais qui est une équipe très rigoureuse, très disciplinée, qui a pas fait acte d'anti-jeu pour le coup, qui a marqué un but très rapidement, trop rapidement d'ailleurs par Ben Sharki, qui est marocain mais qui vient du Wydad, du club rival.
Ouais,
alors voilà, il a mis ce but, il jouait son derby à lui. Ça s'est bien passé pour le Zamalek, mais je pense que le retour sera plus compliqué. En revanche, pour le Harley qui s'est imposé, vous l'avez dit, samedi soir, 2-0 contre le Wydad, avec en plus un entraîneur africain, sud-africain, Pitso Mosimane, qu'on n'attendait pas là, mais enfin, l'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud, c'est un gros technicien, une grosse carte de visite. Et bien voilà, il a réussi son coup. Ça lui était jamais arrivé, il n'arrivait pas à battre le Wydad avec les Mamelodi Sundowns. Enfin, il s'y est essayé plein de fois. Et là, il a enfin réussi. Il
suffisait d'aller en Égypte.
Il suffisait de signer dans ce qui est considéré comme le club du siècle hein, en Afrique, l'Ali du Caire. Et franchement, il y avait plus de maîtrise dans cette équipe. Donc c'est vrai qu'a priori, ça ressemble possiblement à une finale 100% Kérote, qui se jouerait, si j'ai bien compris, à Alexandrie, au stade Borg El Arab, qui est en banlieue d'Alexandrie. Mm-hmm. Mais je pense que le Raja n'a pas dit son dernier mot. Et tant mieux d'ailleurs, parce que j'aime bien ce que fait Jamal Selami, comme qu'un jeune technicien, un monsieur de la maison, c'est un Rajaoui. Et puis il fait confiance aux jeunes joueurs du Raja.
Shérif, vous êtes dans la même ligne que Franck Simon.
Ouais, on va rappeler quand même que le Wydad, ils ont raté un penalty, donc ça aurait pu
leur... fallait donner à l'Ivoirien. Il avait provoqué le péno, on le donne à Badiaou, qui le met sur le gardien. Fallait le donner à Laurent Gbagbo qui avait provoqué. Non, je plaisante. C'est vrai c'est un peu dur.
Je rejoins Franck. Je pense que le Raja a une chance. Ils ont fait jeu égal, voire autant d'occasions, même plus.
En seconde période, c'était incroyable. Voilà, ils méritent d'égaliser.
Voilà, ils ont fait le siège du but. Il y a 1-0, donc c'est quoi? Il doit faire 1-0. Et ensuite, il y a quoi? C'est peut-être des tirs au but.
Oui. Non, il y a...
Au pire.
Oui, t'as raison, tir au but. C'est pour la Coupe de la Confédération à partir d'aujourd'hui où t'as prolongue et tir au but puisque ça sera cette demi-finale sur un match sec.
Pour moi, ils ont fait jeu égal, c'est les Zamalek à gagner, mais tout reste encore ouvert, à mon sens.
Sur la Confédération, c'est Oroya, c'est ça?
Il y a Oroya demain contre Pyramide d'Égypte et aujourd'hui, nous avons on aura au moins un finaliste marocain puisque on a Hassania Agadir contre la Renaissance de Berkane.
Il y a des cas de Covid
Agadir, 7 cas.
Ouais, exactement.
7 cas. Mais apparemment, la couffe.
J'ai eu l'information aujourd'hui par mon avocat qui est là-bas, au match.
La Confédération africaine dit vous allez jouer au Hassania.
Ok.
Voilà, sinon, la qualité était intéressante. J'ai vu les deux équipes, elles se livraient, ça allait d'un but à l'autre. Il y a quand même.
C'était encore meilleur samedi soir. Crois-moi, au niveau de l'intensité, Wydad, Ahly, c'était beaucoup plus fort.
Bah, si tu le dis.
Non. Mais si un jour je prends une équipe africaine ou une sélection, je l'ai toujours dit à Franck, je le prendrai comme. Il a une connaissance du football africain qui est incroyable. Non, mais on en parlait souvent sur l'observation des équipes. Je pense qu'il y a des sélectionneurs qui n'ont pas cette qualité à leur côté pour analyser les adversaires.
Donc, on fait des affaires aussi. Radio Foot
Franck Simon, sorcier blanc.
La finale, en tout cas, aura lieu le 6 novembre et donc on ne sait pas encore vraiment dans quelle ville. C'est la fin. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et à Laurent Salerno.